La comtesse de Rudolfstadt, chapitre 24. Consuelo ressentait par-dessus tout un désir et un besoin de liberté, bien naturel après tant de jours d'esclavage. Elle éprouva donc un plaisir extrême à s'élancer dans un vaste espace, que les soins de l'art et l'ingénieuse disposition des massifs et des allées faisaient paraître beaucoup plus vaste encore. Mais au bout de 2 heures de promenade, elle se sentit attristée par la solitude et le silence qui régnaient dans ces beaux lieux. Elle en avait fait déjà plusieurs fois le tour, sans y rencontrer seulement la trace d'un pied humain sur le sable fin et fraîchement passé au râteau. Des murailles assez élevées, que masquait une espèce de végétation, ne lui permettaient pas de s'égarer au hasard dans des sentiers inconnus. Elle savait déjà par cœur tous ceux qui se croisaient sous ses pas. Dans quelques endroits, le mur s'interrompait pour être remplacé par de larges fossés remplis d'eau, et les regards pouvaient plonger sur de belles pelouses, montant en collines et terminées par des bois, ou sur l'entrée des mystérieuses et charmantes allées qui se perdaient sous le taillis en serpentant. De sa fenêtre, Consuelo avait vu toute la nature à sa disposition. De plein pied, elle se trouvait dans un terrain encaissé, borné de toutes parts, et dont toutes les recherches intérieures ne pouvaient lui dissimuler le sentiment de sa captivité. Elle chercha le palais enchanté où elle s'était éveillée. C'était un très petit édifice à l'italienne, décoré avec luxe à l'intérieur, élégamment bâti au dehors et adossé contre un rocher à pic d'un effet pittoresque, mais qui formait une meilleure clôture naturelle pour tout le fond du jardin et un plus impénétrable obstacle à la vue que les plus hautes murailles et les plus épais glaciers de Spandau. « Ma forteresse est belle, » se dit Consuelo. « Mais elle n'en est que mieux close, je le vois bien. » Elle alla se reposer sur la terrasse d'habitation, qui était ornée de vases de fleurs et surmontée d'un petit jet d'eau. C'était un endroit ravissant. Et pour n'embrasser que l'intérieur d'un jardin, quelques échappées sur un grand parc et de hautes montagnes, dont les cimes bleues dépassaient celles des arbres, la vue n'en était que plus fraîche et plus suave. Mais Consuelo, instinctivement effrayée du soin qu'on prenait de l'installer, peut-être pour longtemps, dans une nouvelle prison, eût donné tous les catalpas en fleurs et toutes les plates-bandes émaillées pour un coin de franche campagne, avec une maisonnette en chaume, des chemins raboteux et l'aspect libre d'un pays possible à connaître et à explorer. D'où elle était, elle n'avait pas de plans intermédiaires à découvrir entre les hautes murailles de verdure de son enclos et les vagues horizons dentelés, déjà perdus dans la brume du couchant. Les rossignols chantaient admirablement, mais pas un son de voix humaine n'annonçait le voisinage d'une habitation. Consuelo voyait bien que la sienne, située aux confins d'un grand parc et d'une forêt peut-être immense, n'était qu'une dépendance d'un plus vaste manoir. Ce qu'elle apercevait du parc ne servait qu'à lui faire désirer d'en voir davantage. Elle n'y distinguait d'autres promeneurs que des troupeaux de biches et de chevreuils paissant au flanc des collines, avec autant de confiance que si l'approche d'un mortel eût été pour eux un événement inconnu. Enfin, la brise du soir écarta un rideau de peupliers qui fermait un des côtés du jardin, et Consuelo aperçut, aux dernières lueurs du jour, les tourelles blanches et les toits aigus d'un château assez considérable, à demi caché derrière un mamelon boisé, à la distance d'un quart de lieue environ. Malgré tout son désir de ne plus penser au chevalier, Consuelo se persuada qu'il devait être là. Et ses yeux se fixèrent avidement sur ce château, peut-être imaginaire, dont l'approche lui semblait interdite et que les voiles du crépuscule faisaient lentement disparaître dans l'éloignement. Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, Consuelo vit le reflet des lumières à l'étage inférieur de son pavillon, courir sur les arbustes voisins, et elle descendit à la hâte, espérant voir enfin une figure humaine dans sa demeure. Elle n'eut pas ce plaisir. Celle du domestique, qu'elle trouva occupée à allumer les bougies et à servir le souper, était, comme celle du docteur, couverte d'un masque noir qui semblait être l'uniforme des invisibles. C'était un vieux serviteur, en perruque lisse et roide comme du laiton, proprement vêtu d'un habit complet couleur pomme d'amour. « Je demande humblement pardon à madame, dit-il d'une voix cassée, de me présenter devant elle avec ce visage-là. C'est ma consigne, et il ne m'appartient pas d'en comprendre la nécessité. J'espère que madame aura la bonté de s'y habituer, et qu'elle daignera ne pas avoir peur de moi. Je suis aux ordres de madame. Je m'appelle Mathéus. Je suis à la fois gardien de ce pavillon, directeur du jardin, maître d'hôtel et valet de chambre. On m'a dit que madame, ayant beaucoup voyagé, avait un peu l'habitude de se servir toute seule, que par exemple, elle n'exigerait peut-être pas l'aide d'une femme. Il me serait difficile d'en procurer une à madame, vu que je n'en ai point, et que la fréquentation de ce pavillon est interdite à toutes celles du château. Cependant, une servante entrera ici le matin pour m'aider à faire le ménage, et un garçon jardinier viendra de temps en temps arroser les fleurs et entretenir les allées. J'ai à ce propos une très humble observation à faire à madame. C'est que tout domestique, autre que moi, à qui madame serait seulement soupçonnée d'avoir adressé un mot ou fait un signe, serait chassé à l'instant même. Ce qui serait bien malheureux pour lui, car la maison est bonne et l'obéissance bien récompensée. Madame est trop généreuse et trop juste, sans doute, pour vouloir exposer ces pauvres gens. Soyez tranquille, monsieur Mathéus, répondit Consuelo. Je ne serai pas assez riche pour les dédommager, et il n'est pas dans mon caractère de détourner qui que ce soit de son devoir. D'ailleurs, je ne les perdrai jamais de vue, reprit Mathéus, comme se parlant à lui-même. Vous pouvez vous épargner toute précaution à cet égard. J'ai de trop grandes obligations aux personnes qui m'ont amené ici, et je pense aussi à celles qui m'y reçoivent, pour rien tenter qui puisse leur déplaire. Ah, madame est ici de son plein gré? Demanda Mathéus, à qui la curiosité ne semblait pas aussi interdite que l'expansion. « Je vous prie de m'y considérer comme captive volontaire et sur parole. »« Oh, c'est bien ainsi que je l'entends. Je n'ai jamais gardé personne autrement. Quoique j'ai vu bien souvent mes prisonniers sur parole pleurer et se tourmenter comme s'ils regrettaient de s'être engagés. Et Dieu sait pourtant qu'ils étaient bien ici. Mais dans ces cas-là, on leur rendait toujours leur parole quand ils l'exigeaient. On ne retient ici personne de force. » Le souper de madame est servi. L'avant-dernier mot du majordome couleur de tomate eut le pouvoir de rendre tout à coup l'appétit à sa nouvelle maîtresse. Et elle trouva le souper si bon qu'elle en fit de grands compliments à l'auteur. Celui-ci parut très flatté de se voir apprécié, et Consuelo vit bien qu'elle avait gagné son estime. Mais il n'en fut ni plus confiant ni moins circonspect. C'était un excellent homme, à la fois naïf et rusé. Consuelo connut vite son caractère, en voyant avec quel mélange de bonhomie et d'adresse il prévenait toutes les questions qu'elle eût pu lui faire, pour n'en être pas embarrassée, et arranger les réponses à son gré. Ainsi, elle apprit de lui tout ce qu'elle ne lui demandait pas, sans rien apprendre toutefois. Ses maîtres étaient des personnages fort riches, fort puissants, très généreux, mais très sévères, particulièrement sur l'article de la discrétion. Le pavillon faisait partie d'une belle résidence, tantôt habitée par les maîtres, tantôt confiée à la garde de serviteurs très fidèles, très bien payés et très discrets. Le pays était riche, fertile et bien gouverné. Les habitants n'avaient pas l'habitude de se plaindre de leur seigneur. D'ailleurs, ils n'eussent pas eu beau jeu avec maître Mathéus, qui vivait dans le respect des lois et des personnes, et qui ne pouvait souffrir les paroles indiscrètes. Consuelo fut si ennuyée de ses savantes insinuations et de ses renseignements officieux qu'elle lui dit en souriant, aussitôt après le souper. « Je craindrais d'être indiscrète moi-même, monsieur Mathéus, en jouissant plus longtemps de l'agrément de votre conversation. » « Je n'ai plus besoin de rien pour aujourd'hui, et je vous souhaite le bonsoir. » Madame me fera l'honneur de me sonner quand elle voudra quoi que ce soit, reprit-il. Je demeure derrière la maison, sous le rocher, dans un joli ermitage où je cultive des melons d'eau magnifiques. Je serais bien flatté que madame pût leur accorder un coup d'œil d'encouragement. Mais il m'est particulièrement interdit d'ouvrir jamais cette porte à madame. J'entends, maître Mathéus, je ne dois jamais sortir que dans le jardin, et je ne dois pas m'en prendre à votre caprice, mais à la volonté de mes hôtes. Je m'y conformerai. D'autant plus que madame aurait bien de la peine à ouvrir cette porte, elle est si lourde. Et puis, il y a un secret à la serrure, qui pourrait blesser grièvement les mains de madame si elle n'était pas prévenue. Ma parole est plus solide encore que tous vos verrous, monsieur Mathéus. Dormez en paix, comme je suis disposé à le faire de mon côté. Plusieurs jours s'écoulèrent, sans que Consuelo reçût signe de vie de la part de ses hôtes, et sans qu'elle eût d'autre visage sous les yeux que le masque noir de Mathéus, plus agréable peut-être que sa véritable figure. Ce digne serviteur la servait avec un zèle et une ponctualité dont elle ne pouvait assez le remercier. Mais il l'ennuyait prodigieusement par sa conversation, qu'elle était obligée de subir, car il refusa constamment, avec stoïcisme, les dons qu'elle voulut lui faire, et elle n'eut pas d'autre manière de lui marquer sa reconnaissance qu'en le laissant babiller. Il aimait passionnément l'usage de la parole, et cela était d'autant plus remarquable que, voué par état à une réserve bizarre, il ne s'en départait jamais, et possédait l'art de toucher à beaucoup de sujets sans jamais effleurer les cas réservés confiés à sa discrétion. Consuelo apprit de lui combien le potager du château produisait au juste chaque année de carottes et d'asperges, combien il naissait de fans dans le parc, l'histoire de tous les cygnes de la pièce d'eau, de tous les poussins de la faisanderie et de tous les ananas de la serre. Mais elle ne put soupçonner un instant dans quel pays elle se trouvait, si le maître ou les maîtres du château étaient absents ou présents, si elle devait communiquer un jour avec eux, ou rester indéfiniment seule dans le pavillon. En un mot, rien de ce qui l'intéressait réellement ne s'échappa des lèvres prudentes et pourtant actives de Mathéus. Elle eut craint de manquer à toute délicatesse en approchant seulement à la portée de la voix du jardinier ou de la servante, qui, du reste, était fort matineux et disparaissait presque aussitôt qu'elle était levée. Elle se borna à jeter de temps en temps un regard dans le parc, sans y voir passer personne, si ce n'est de trop loin pour l'observer, et à contempler le faîte du château, qui s'illuminait le soir de rares lumières toujours éteintes de bonne heure. Elle ne tarda pas à tomber dans une profonde mélancolie, et l'ennui qu'elle avait victorieusement combattu à Spandau vint l'assaillir et la dominer dans cette riche demeure, au milieu de toutes les aises de la vie. Est-il des biens sur la terre dont on puisse jouir absolument seul? La solitude prolongée assombrit et désenchante les plus beaux objets. Elle répand l'effroi dans l'âme la plus forte. Consuelo trouva bientôt l'hospitalité des invisibles encore plus cruelle que bizarre, et un dégoût mortel s'empara de toutes ses facultés. Son magnifique clavecin lui sembla répandre des sons trop éclatants dans ses chambres vides et sonores, et les accents de sa propre voix lui firent peur. Lorsqu'elle se hasardait à chanter, si les premières ombres de la nuit la surprenaient dans cette occupation, elle s'imaginait entendre les échos lui répondre d'un ton courroucé, et croyait voir courir, contre les murs tendus de soie et sur les tapis silencieux, des ombres inquiètes et furtives, qui, lorsqu'elle essayait de les regarder, s'effaçait et allait se tapir derrière les meubles pour chuchoter, la railler et la contrefaire. Ce n'étaient pourtant que les brises du soir courant parmi le feuillage qui encadrait ses croisées, ou les vibrations de son propre chant qui frémissait autour d'elle. Mais son imagination, lasse d'interroger tous ces muets témoins de son ennui, les statues, les tableaux, les vases du Japon remplis de fleurs, les grandes glaces claires et profondes, commençaient à se laisser frapper d'une crainte vague, comme celle que produit l'attente d'un événement inconnu. Elle se rappelait le pouvoir étrange attribué aux invisibles par le vulgaire, les prestiges dont elle avait été environnée par Cagliostro, l'apparition de la femme blanche dans le palais de Berlin, les promesses merveilleuses du comte de Saint-Germain relativement à la résurrection du comte Albert. Elle se disait que toutes ces choses inexpliquées émanaient probablement de l'action secrète des invisibles dans la société et dans sa destinée particulière. Elle ne croyait point à leur pouvoir surnaturel, mais elle voyait bien qu'ils s'attachaient à conquérir les esprits par tous les moyens, en s'adressant soit au cœur, soit à l'imagination, par des menaces ou des promesses, par des terreurs ou des séductions. Elle était donc sous le coup de quelque révélation formidable ou de quelque mystification cruelle. Et, comme les enfants poltrons, elle eût pu dire qu'elle avait peur d'avoir peur. À Spandau, elle avait roidi sa volonté contre des périls extrêmes, contre des souffrances réelles. Elle avait triomphé de tout avec vaillance. Et puis, la résignation lui semblait naturelle à Spandau. L'aspect sinistre d'une forteresse est en harmonie avec les tristes méditations de la solitude. Au lieu que dans sa nouvelle prison, tout semblait disposé pour une vie d'épanchement poétique ou de paisible intimité. Et ce silence éternel, cette absence de toute sympathie humaine, en détruisait l'harmonie comme un monstrueux contresens. On eût dit de la délicieuse retraite de deux amants heureux ou d'une élégante famille, riant foyer, tout à coup haï et délaissé, à cause de quelque rupture douloureuse ou de quelque soudaine catastrophe. Les nombreuses inscriptions qui la décoraient et qui se trouvaient placées dans tous les ornements ne la faisaient plus sourire comme d'emphatique puérilité. C'étaient des encouragements joints à des menaces, des éloges conditionnels corrigés par d'humiliantes accusations. Elle ne pouvait plus lever les yeux autour d'elle sans découvrir quelque nouvelle sentence qu'elle n'avait pas encore remarquée et qui semblait lui défendre de respirer à l'aise dans ce sanctuaire d'une justice soupçonneuse et vigilante. Son âme s'était affaissée sur elle-même après la crise de son évasion et celle de son amour improvisé pour l'inconnu. L'état léthargique qu'on avait provoqué, sans doute à dessein, chez elle, pour lui cacher la situation de son asile, lui avait laissé une secrète langueur, jointe à l'irritabilité nerveuse qui en est la conséquence. Elle se sentit donc, en peu de temps, devenir à la fois inquiète et nonchalante, tour à tour effrayée d'un rien et indifférente à tout. Un soir, elle crut entendre les sons, à peine saisissables, d'un orchestre dans le lointain. Elle monta sur la terrasse et vit le château resplendissant de lumière à travers le feuillage. Une musique de symphonie, fière et vibrante, parvint distinctement jusqu'à elle. Ce contraste d'une fête et de son isolement l'émut plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait échangé une parole avec des êtres intelligents ou raisonnables. Pour la première fois de sa vie, elle se fit une idée merveilleuse d'une nuit de concert ou de bal. Et, comme Cendrillon, elle souhaita que quelque bonne fée l'enlevât dans les airs et la fit entrer dans le palais enchanté par une fenêtre, fût-ce pour y rester invisible et y jouir de la vue d'une réunion d'êtres humains animés par le plaisir. La lune n'était pas encore levée. Malgré la pureté du ciel, l'ombre était si épaisse sous les arbres que Consuelo pouvait bien s'y glisser sans être aperçue. Fut-elle entourée d'invisibles surveillants. Une violente tentation vint s'emparer d'elle, et toutes les raisons spécieuses que la curiosité nous suggère, quand elle veut livrer un assaut à notre conscience, se présentèrent en foule à son esprit. L'avait-on traitée avec confiance, en l'amenant endormie et à demi-morte dans cette prison dorée mais implacable? Avait-on le droit d'exiger d'elle une aveugle soumission, lorsqu'on ne daignait même pas la lui demander? D'ailleurs, ne voulait-on pas la tenter et l'attirer par le simulacre d'une fête? Qui sait? Tout était bizarre dans la conduite des invisibles. Peut-être, en essayant de sortir de l'enclos, allait-elle trouver précisément une porte ouverte, une gondole sur le ruisseau qui entrait du parc dans son jardin par une arcade pratiquée dans la muraille. Elle s'arrêta à cette dernière supposition, la plus gratuite de toutes, et descendit au jardin, résolue de tenter l'aventure. Mais elle n'eut pas fait 50 pas qu'elle entendit dans les airs un bruit assez semblable à celui que produirait un oiseau gigantesque en s'élevant vers les nues avec une rapidité fantastique. En même temps, elle vit autour d'elle une grande lueur d'un bleu livide qui s'éteignit au bout de quelques secondes pour se reproduire presque aussitôt avec une détonation assez forte. Consuelo comprit alors que ce n'était ni la foudre ni un météore, mais le feu d'artifice qui commençait au château. Ce divertissement de ses hôtes lui promettait un beau spectacle du haut de la terrasse, et, comme un enfant qui cherche à secouer l'ennui d'une longue pénitence, elle retourna à la hâte vers le pavillon. Mais, à la clarté de ces longs éclairs factices, tantôt rouges et tantôt bleus, qui embrasaient le jardin, elle vit par deux fois un grand homme noir, debout et immobile à côté d'elle. Elle n'avait pas eu le temps de le regarder, que la bombe lumineuse retombant en pluie de feu s'éteignit rapidement et laissait tous les objets plonger dans une obscurité plus profonde pour les yeux un instant éblouis. Alors Consuelo, effrayée, courait dans un sens opposé à celui où le spectre lui était apparu. Mais, au retour de la lueur sinistre, elle se retrouvait à deux pas de lui. À la troisième fois, elle avait gagné le perron du pavillon. Il était devant elle, lui barrant le passage. Saisie d'une terreur insurmontable, elle fit un cri perçant et chancela. Elle fut tombée à la renverse sur les degrés, si le mystérieux visiteur ne l'eût saisie dans ses bras. Mais à peine eut-il effleuré son front de ses lèvres, qu'elle sentit et reconnut le chevalier, l'inconnu, celui qu'elle aimait et dont elle se savait aimée.